Bonsoir à toutes et à tous. L'été, c'est généralement assez calme en politique, surtout le mois d'août, mais pas avec Matteo Salvini, apparemment. Au beau milieu d'une tournée des plages, torse nu, l'homme fort de l'Italie a envoyé valser sa propre coalition, provoquer indirectement de nouvelles élections qui devraient être organisées à l'automne, et ce alors que le pays est en pleine négociation avec Bruxelles. Mais Salvini s'en moque. Vainqueur des européennes, il a décidé de pousser ses pions. Ses sondages sont au beau fixe. Apparemment, les électeurs italiens aiment son franc-parler. Ils aiment aussi ses décrets anti-migrants. Qui est-il? Jusqu'où ira-t-il? Que fera-t-il si demain il est président du Conseil, donc au pouvoir, et s'il a les mains libres? Quelles conséquences pour l'Italie? Quelles conséquences aussi pour l'Europe? Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron? Italie, le coup de poker de Salvini, c'est donc le titre de l'émission de ce soir. Et on attend évidemment, comme d'habitude, vos questions, vos réactions par SMS, sur Internet et sur les réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On va en parler avec François Delabarre. Vous êtes grand reporter à Paris Match, vous allez souvent en Italie. Vous avez notamment suivi Matteo Salvini en campagne lors des européennes. Pascal Boniface, professeur de géopolitique, vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous avez publié récemment Requiem pour le monde occidental aux éditions Erol. Alain de Chalvron, visage connu évidemment des téléspectateurs de France Télévisions, ancien correspondant de France 2 à Rome notamment, aujourd'hui grand reporter, et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP, vous venez de publier L'Archipel français. Je signale également votre livre « Accueil ou submersion, regard européen sur les migrants » que vous aviez publié en 2016 aux éditions de l'Aube. Comme on dit dans les tontons flingueurs, en pleine paix et paf un bourre-pif. Donc j'ai envie de vous poser cette question tout simplement. Quelle mouche a piqué Matteo Salvini? Pourquoi le 9 août venir provoquer une crise politique en Italie?
La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il a attendu si longtemps? Parce qu'en fait, cette alliance contre nature qu'il forme avec le mouvement 5 étoiles n'était pas faite pour durer. Et depuis presque 6 mois, on attend, on guette, tous les journalistes guettent le moment où il va mettre fin à cette coalition. Alors, il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu l'histoire des incinérateurs dans la région de Naples où il n'était pas d'accord avec les 5 étoiles. Là, il y a l'histoire du TGV Lyon-Turin. Mais en fait, toutes ces histoires servent d'argument pour mettre fin à cette coalition et se présenter. Depuis le début, il attendait le moment où il aurait le plus d'opinions favorables. Et on l'a vu, en 6 mois, il est devenu très populaire. Et aujourd'hui, il est à plus de 30% dans les sondages. Donc, il a tout intérêt à mettre fin à cette coalition pour provoquer les élections et ensuite devenir l'homme fort du pays.
Donc, pour vous, il n'y a pas de contre-pied. C'est un acte réfléchi,
depuis, stratégique. Depuis le départ, on savait que ce gouvernement ne serait pas durable parce que c'est l'alliance un an et deux mois, donc c'est l'alliance de contraires, c'était pas durable et on se demandait quand est-ce qu'il y aurait une sortie. En fait, il y a eu une inversion des courbes. Le mouvement 5 étoiles faisait le double des voix du parti de Salvini lors de la constitution du gouvernement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, il lui fallait un prétexte pour prendre le pouvoir sans être celui qui est toujours dans l'instabilité. Effectivement, le fait que le mouvement 5 étoiles refuse le train Lyon-Turin, c'est des travaux, c'est des emplois, c'est présenté comme finalement une entrave à la reprise économique. Donc là, il y a un prétexte qui peut être acheté par ses électeurs pour devenir l'homme fort de l'Italie et recomposer la vie politique italienne autour de lui.
On crée un séisme politique sur une ligne de train?
Disons que c'est une accumulation de différences et que là, c'est quelque chose qui peut satisfaire l'opinion, qui peut dire oui, là quand même, ne pas faire ses travaux qui amènent la modernité alors que l'Italie souffre un peu de problèmes économiques. Donc ça aurait pu être un autre prétexte, d'ailleurs ça aurait pu être un autre sujet. Mais là, le faire et le faire au creux de l'été, au moment où il est en tournée sur les plages et où finalement, eh bien, le vide étant là, il remplit un vide qui existe. Et puis, il faut voir quand même la tournée sur les plages. On ne verrait pas un ministre français en maillot de bain au milieu d'autres vacanciers comme cela.
Ministre de l'Intérieur.
De l'Intérieur.
On se souvient ce que ça a donné quand notre ministre de l'Intérieur est sorti en discothèque.
Voilà.
Et donc, en Italie, c'est bien vécu par les Italiens?
En tout cas, ça paraît tout à fait normal, mais c'est un acte de communication. Hein. Il est très fort pour ça, Salvini. Non, je crois que le compte à rebours de cette crise a démarré le jour des européennes, quand il a vu le succès qu'il a eu. Effectivement, l'inversion des courbes, deux fois plus de voix que son partenaire, qui n'était pas vraiment un ami non plus. À partir de ce moment-là, il cherchait le bon moment, le prétexte est venu avec cette ligne. Il faut voir aussi que cette ligne, Lyon-Turin, mais au-delà Milan et toute l'Italie du Nord, c'est quand même son fief, hein, l'Italie du Nord. Donc c'est quelque chose qui parle à son électorat, hein, d'intervenir sur une question qui touche le nord de l'Italie. Mais ça aurait pu être un autre prétexte, il y avait 1000 prétextes possibles. Ouais. Bon, les sondages sont aussi excellents, il a 37-38%. Bon, le moment était venu.
Oui, on le voit, hein, ce projet de ligne Lyon-Turin, ça nous concerne aussi un peu, hein, évidemment, puisqu'il arrive à Lyon, par définition. Il est sûr de lui à ce point ? Parce que pour faire sauter son propre gouvernement, pardon, il faut quand même avoir, être très tranquille, non ?
Alors, très tranquille.
Ou alors peut-être brûlé au choix, mais...
Non, mais comme ça a été dit, il y a une fenêtre d'opportunité qui se présente à lui, et il considère que c'est le meilleur moment pour rafler la mise et réaliser une OPA. Donc on est sur un système électoral qui est différent du nôtre, c'est une démocratie parlementaire. Et donc il faut avoir une majorité à l'Assemblée. Et donc avec aujourd'hui, il est la force qui est en pôle position. Et donc même s'il n'a pas 50% des voix, il peut espérer être la force pivot. Il faut rappeler aux téléspectateurs que cette coalition qui s'est montée après beaucoup de tergiversations et de négociations, elle ne s'était pas présentée unie lors des dernières élections législatives. La Ligue faisait partie d'une coalition de droite avec le parti de Berlusconi, quand 5 étoiles partaient sous ses propres couleurs. Et comme il y avait une impossibilité de constituer une majorité, il y a eu cette alliance de la carpe et du lapin. Ce qui s'est passé également, c'est que Salvini est un politique très chevronné, que son alter ego, Luigi Di Maio, qui représente le mouvement 5 étoiles, est apparu très sous-coté ou sous-dimensionné par rapport à Salvini.
Un mot pour vous, il ne fait pas un pli qu'on va vers de nouvelles élections en Italie et que Salvini ait de bonnes chances de l'emporter ?
Alors, on va vers de nouvelles élections, ça c'est sûr. Mais quand ? C'est encore en question. Parce que la Constitution prévoit qu'il faille 60 jours de campagne. Mmh. Donc ça nous repousse au mois d'octobre. Mmh. Or, il y a une échéance aussi d'État, c'est le budget de l'État, l'État italien qui doit être présenté à l'Union européenne avant fin septembre. Donc évidemment, si on n'est pas en pleine campagne électorale sans gouvernement, c'est difficile. Alors le président de la République, quel dernier mot sur cette question ? Peut très bien décider de nommer un gouvernement technique pour attendre, pour faire le budget et repousser les élections au début de l'année prochaine. C'est une possibilité, hein. Je ne sais pas du tout laquelle quelle sera la solution retenue, mais ce n'est pas absolument certain que les élections aient lieu dès le mois d'octobre.
En tout cas, Salvini a surpris une partie du monde hier soir en annonçant la fin de la coalition avec le mouvement 5 étoiles et en réclamant ces élections anticipées, là pour le coup de manière très nette. « La politique ne se fait pas à la plage », lui a répondu sèchement le Premier ministre italien, dont les jours sont désormais comptés. Salvini, lui, est déjà en campagne, comme vous allez le voir, récit de ce coup de chaud, qui est peut-être aussi un coup de force politique, avec Émilien David et Arwan Ilion.
Matteo Salvini, acclamé par ses supporters. Le ministre de l'Intérieur italien vient de réaliser un coup de poker et d'enterrer la coalition au pouvoir. Pour lui, il n'y a plus de majorité. Il réclame des élections anticipées et entame sa campagne sans attendre.
Je fais mon travail avec mon cœur, avec honneur, avec fierté, si je peux le faire librement et jusqu'à la fin. Mais si je réalise que quelqu'un est en train d'essayer de m'arrêter, alors je dois m'en remettre aux Italiens, sans détour. Ce sera donc à vous de décider, vous, personne d'autre, mais bien vous.
Quasiment au même moment à Rome, le chef du gouvernement italien prend lui aussi la parole et recadre son ministre rebelle.
Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de convoquer le Parlement pour réclamer des élections. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de fixer l'agenda d'une crise politique. Où, maintenant, d'autres figures institutionnelles doivent intervenir.
C'est désormais une guerre ouverte qui déchire la coalition au pouvoir depuis un an. Une alliance entre la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, troublé depuis plusieurs mois par de nombreux désaccords. À commencer par le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Un chantier à 8,6 milliards d'euros débuté cette année, soutenu par Matteo Salvini, mais farouchement combattu par le mouvement 5 étoiles depuis le début.
Plus qu'une confrontation ouverte, je dirais que le débat est clos. On peut simplement dire que tant que le mouvement 5 étoiles sera au gouvernement, ce chantier ne débutera pas.
Le parti du vice-premier ministre a déposé au Sénat mercredi une motion visant à arrêter le chantier. Le désaveu de trop pour Matteo Salvini. Il veut désormais gouverner seul et se débarrasser des ministres éloignés de sa ligne politique. Comme la ministre de la Défense, qu'il soupçonne de faire obstacle à sa politique migratoire, le ministre de l'Économie, jugé trop conciliant avec Bruxelles au sujet de la dette, et le ministre des Transports, opposé à la ligne Lyon-Turin. Aujourd'hui, Matteo Salvini veut profiter de sa position de force acquise suite à sa victoire lors des dernières élections européennes.
C'est un vent d'énergie positive. Le vote des peuples européens a ouvert les fenêtres, a fait souffler un peu d'air frais. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer. Nous sommes aux avant-postes.
La Ligue a obtenu 34% des suffrages, un score historique pour le parti d'extrême droite, alors que le mouvement 5 étoiles plonge et termine à la troisième place avec 17% des voix. Et la dynamique en faveur de Matteo Salvini se poursuit. Selon les sondages, son parti serait crédité de 36 à 39% des intentions de vote en cas d'élection législative. Alors le ministre de l'Intérieur entretient son image, aussi polémique que populaire. Ce mois d'août, il fait la tournée des plages, torse nu, et pose sans complexe pour des selfies. Salvini ou l'art de la campagne permanente. Si des élections devaient être organisées, elles pourraient se tenir en octobre prochain. Selon un sondage, trois quarts des Italiens y seraient favorables.
Je vais vous poser la question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice qui vous demande ce que pourra faire le mouvement 5 étoiles pour barrer la route à Salvini et l'empêcher de gouverner.
Rien. Bah, rien.
C'est cuit, quoi, si j'ai bien compris.
Ils ont un score qui n'est pas très bon aux européennes. S'il y avait des élections, ils auraient à peu près le même score, voire pire encore. Et donc là, la décision, pour l'instant, comme Alain Chabon l'a dit, c'est le président de la République. Est-ce qu'il va convoquer les élections rapidement, donc en octobre, ou est-ce qu'il va mettre en place un gouvernement technique? Salvini peut s'en accommoder parce que la tâche de ce gouvernement sera impossible à faire un budget. Donc Salvini pourra encore plus accuser le gouvernement en place d'incompétence, d'immobilisme et capitaliser. Mmh. Mais le mouvement 5 étoiles, je ne sais pas s'il va disparaître, mais en tous les cas, son avenir est plutôt derrière lui. Il a eu un moment vraiment très fort qui a été il y a un an et demi, et là, ils sont trop divisés, ils n'ont pas réussi à délivrer ce qu'ils avaient promis aux électeurs, et ils n'ont pas de personnalité forte qui incarne un projet, ils n'ont pas réellement de programme non plus, il faut bien le dire. Et donc, tout le mouvement protestataire qui a fait le succès de 5 étoiles est maintenant incarné par Salvini. Donc il a pompé tout l'électorat contestataire en disant « maintenant, l'antisystème, c'est moi », alors qu'il est au cœur du système. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui se présentent comme étant antisystème en étant au cœur. On a Trump aux États-Unis et ailleurs. Et donc Salvini est venu brûler les terres autour du mouvement 5 étoiles. Il a siphonné les voix des 5 étoiles et il a siphonné également son espace politique.
D'autres coups de siphon? Il a siphonné la droite également?
Alors il y a une droite, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient partis en coalition pour les dernières élections législatives. Et aujourd'hui, la droite traditionnelle italienne a un score qui est très faible, en dessous de 10%, un peu à l'image de ce qui se passe avec les Républicains ici en France. Et donc la progression de la Ligue, hein, qui est passée de 17% à 32%, elle s'est faite en partie sur un électorat contestataire, notamment dans le sud de l'Italie, qui avait voté pour 5 étoiles et qui se met à voter pour la Ligue, hein, puisque la Ligue, avant, s'appelait la Ligue du Nord, elle n'était pas du tout implantée dans le Sud. Et puis, elle se fait aussi, cette progression, sur un électorat de droite classique qui se reconnaît aujourd'hui dans Salvini et qui a trouvé en lui un nouveau leader et quelqu'un qui pourrait bâtir une coalition électorale de droite.
Pourquoi vous, alors, pour le coup, vous qui l'avez suivi, comment est-il? Est-ce qu'il est comme on l'a vu là à l'image, décontracté, sans cravate, l'inverse du costard cravate?
Il sait apparaître comme quelqu'un de naturel. Il est ouvert, il parle, il est accessible.
Y compris aux journalistes étrangers, même français.
Oui, surtout. Enfin, pas plus. En fait, non, ils ne traitent pas les journalistes différemment que les autres. D'ailleurs, on a essayé de faire des interviews, ils donnent très peu d'interviews. C'est quelqu'un qui parle aux gens et qui parle sur les réseaux sociaux. Il maîtrise bien les outils de communication de sa génération. Il sait parfaitement comment se comporter pour plaire. Et c'est une bête de scène, c'est une bête politique. On le voit sur les plateaux télé, il chante, il a pas peur de se mettre en maillot de bain. Et puis, surtout, il bénéficie d'une cote de popularité qui est très importante. Un peu comme moi, il me faisait penser à Sarkozy en 2006-2007, puisqu'il arrive comme je suis ministre de l'Intérieur, je vais régler tous les problèmes, je suis un homme d'action. Alors lui, son truc, Sarkozy, c'était le Karcher. Lui, c'est la rouspa, donc c'est la pelleteuse.
La rouspa ?
Ouais, ça veut dire la pelleteuse. Donc en fait, il veut passer la pelleteuse partout. Et alors, il fait ça dans les
déblayer,
maisons.
Déblayer, en quelque sorte.
Déblayer. Ouais. Alors, il fait ça dans les maisons qui ont été saisies par les mafieux, puisqu'on l'accuse d'avoir noué des pactes avec la mafia. Il fait ça avec les camps de Rome. Ce qui a en partie fait gagner sa popularité dans le sud de l'Italie. Et ce côté franc du collier, en fait, moi j'agis, c'est ça qui plaît aux Italiens. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus populaire que Di Maio ou les autres qui sont quand même plus timorés dans leur communication politique.
On a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'il avait gagné des voix en un an et demi, entre ouais. deux élections aux européennes. Comment est-ce qu'il prend ses voix et est-ce qu'il les prend autant à droite qu'à gauche ?
Alors, il les prend. C'est dans le sud, il était l'ennemi numéro un jusqu'en 2017. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il allait dans le sud, comme il passait son temps à dire que les Italiens du sud sont des gens qui font rien du matin au soir, il le dit vraiment.
Texto.
Il l'a dit ça pendant 20 ans. Donc la Ligue du Nord, c'était le nord de l'Italie travaille et gagne de l'argent. Le sud ne fait rien et c'est une économie subventionnée. Mmh. Donc il faut diviser l'Italie. Et il faut un régime fiscal spécifique au nord de l'Italie. Et ça, il a maintenu ce discours pendant 20 ans, ce qui l'a pas empêché d'épouser une fille qui venait du sud de l'Italie. Donc vous voyez. Bon, alors, il s'arrange, quoi. C'est quelqu'un qui a un discours, mais dans sa vie, peut-être qu'il gère les choses un peu différemment. Et là, il arrive en Italie, à Naples, en 2017, il se fait huer. Et donc, les photographes italiens que je connais, ils foncent à la manif anti-Salvini, parce que c'est là où on fait les plus belles photos. Et en 2018, fin 2018, j'arrive, il arrive à Naples, pareil, et puis les photographes, ils vont à la manif anti-Salvini, il n'y a rien à photographier. Ils sont tous allés au discours, voir le discours de Salvini, parce que c'est lui qui fait le show maintenant. C'est plus les manifs anti-Salvini, c'est Salvini qui fait le show, et dans le Sud, c'est une star. Et le Sud adore les personnages comme ça, ils ont adoré Berlusconi. Berlusconi, il a fait carton plein dans le Sud de l'Italie, en particulier en Sicile, où il avait 100% des sièges, et lui, il incarne un peu un nouveau Berlusconi, même si le ton est plus agressif. Il a cette capacité de séduction que n'ont pas les autres.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun ?
Ils sont décomplexés, ils parlent d'eux-mêmes, ils se mettent en scène, ils ont réussi à créer une proximité avec les Italiens. Et donc, ils racontent une histoire, et donc, ils ont... je vous donne un exemple idiot. Paris Match, on a fait un sujet de 6 pages sur Salvini, parce que c'est quelqu'un qui est populaire, malgré tout. Et on n'aurait jamais fait 6 pages sur Di Maio, ou sur Conte, ou sur Mattarella, ou sur n'importe qui d'autre. Il fait vendre des journaux. En Italie, il fait vendre des journaux. Mmh. Quand Salvini parle, c'est dans l'actualité. Donc, c'est lui qui fait l'actualité. Donc, quand il décide qu'on va parler des incinérateurs à Naples, tout le monde va parler des incinérateurs à Naples. Quand il décide qu'on va parler de la crise migratoire, évidemment, ça, il le fait tout le temps. Mais c'est lui qui a la baguette. C'est lui qui décide de ce qui sera dans l'actualité parce que ce qu'il dit a une valeur.
Avec un vrai sens de la mise en scène. Hein.
Oui, alors, il y a des comparaisons qui sont intéressantes. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire remettre au goût du jour le volontarisme en politique, en disant quand on veut, on peut, et donc après le Karcher, la pelleteuse.
Et puis ce sont deux ministres de l'Intérieur.
Voilà, deux ministres de l'Intérieur, où on peut avoir des résultats tangibles, comme ça a été dit tout à l'heure, en disant j'ai fait baisser l'arrivée des migrants, ou on a démantelé tel ou tel...
De combien d'ailleurs ? On y reviendra plus en détail.
Moins 80% pour les débarquements de migrants.
Moins 80%.
Alors tout n'est pas de son fait, hein. Il y a aussi qu'il y a moins de départs. Donc il y a des similitudes avec Nicolas Sarkozy. Par rapport à Berlusconi, c'était la télé. C'était les années 80, il était patron de chaîne de télé. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement les nouveaux moyens de communication de masse que sont les réseaux sociaux. Donc c'est lui. Et puis troisième élément, on est aussi sur un système politique, on parlait du sud de l'Italie, qui est peut-être encore plus décomposé que le nôtre, où on a une volatilité de l'électorat qui est plus forte, où les fidélités traditionnelles pour la gauche ou pour la droite se sont considérablement disloquées. Et donc, c'est l'espace ouvert pour des opérateurs ou des acteurs politiques qui sont des battleurs et qui arrivent à capter l'air du temps.
Alors oui, je dirais aussi que
C'est assez facile, quand on est ministre de l'Intérieur, de tout d'un coup prendre un décret interdisant l'émigration. C'est plus facile que de faire baisser le déficit budgétaire. Alors il a fait ça, il a des propos qui sont démagogiques aussi, il est très bon communicateur, tout ça explique où il en est aujourd'hui. Mais à partir du moment où il va devenir, c'est ce qu'il espère en tout cas, président du Conseil, il va devoir être peut-être un peu plus réfléchi et faire des actes qui sont plus compliqués. Alors, pour ce qui est de l'image, on voit aussi qu'il est en blue jean. Enfin, quand on le compare à Berlusconi, qui était toujours en costard-cravate, maintenant, c'est le blue jean, c'est le mec qui va sur les plages. Il est charismatique, hein, faut pas non plus se tromper sur ce point. C'est un type qui est très fort, quoi.
Il est bien entouré. Il est entouré, d'ailleurs, avant de savoir s'il est bien entouré.
Disons que son parti a généré beaucoup de ministres et c'est un parti de gouvernement.
C'est important.
Oui, parce qu'il a été... En fait, Berlusconi n'a été au pouvoir et n'est resté aussi longtemps au pouvoir que grâce à son alliance avec Umberto Bossi, qui est le fondateur de la Ligue du Nord, donc de la Ligue. Et c'est pas... On aurait tort de le comparer au Front National par rapport à l'histoire politique de l'Italie, parce que c'est un parti qui a gouverné et qui a donné des ministres comme Roberto Maroni, comme Umberto Bossi, qui ont eu des rôles important. Donc c'est quelqu'un qui est structuré parce qu'il a une expérience politique qui est longue. Il a commencé la politique à 17 ans et c'est quelqu'un qui est entouré, il est dans un parti qui est structuré et donc c'est ça qui fait qu'en fait on parle de crise aujourd'hui, de crise politique, mais les Italiens n'ont pas peur. En fait, ils n'ont pas peur comme nous, on pourrait avoir peur en disant attention à ce qui se passe. Voilà. Mais pour eux, c'est une forme de continuité parce que s'ils remportent ces élections, ce sera avec une coalition certainement avec le centre-droit, la même coalition qui s'est présenté aux législatives, donc qui n'ont pas réussi.
Quand vous dites le centre-droit, c'est
Berlusconi.
C'est Berlusconi.
Donc, en fait, il s'est présenté avec Berlusconi il y a deux ans. Il n'a pas réussi à remporter ces élections. Donc, on a fait cette alliance contre nature avec les 5 étoiles. Et aujourd'hui, il a suffisamment de crédit pour convoquer des élections. Et puis ensuite, il pourra former cette alliance, qui est une alliance plus naturelle, puisque c'est l'alliance de la droite et de l'extrême droite qui a gouverné l'Italie pendant 20 ans, sous Berlusconi.
Oui, je voulais juste, parce que ça me revient à une anecdote un peu, sur la façon dont il peut se présenter. Il est intervenu un jour à la télévision, je crois d'ailleurs que c'était après les élections européennes, et derrière lui, il avait un portrait de Poutine, une casquette rouge de Trump, écrit Trump, et un portrait de Jésus-Christ. Faut le faire, non ? Poutine, Trump, Jésus-Christ. Pas le pape, hein, surtout pas.
Non, et vous faites bien de le signaler, le pape a réagi. Alors c'est dans La Stampa, qui est un grand journal italien, comme vous le savez, daté du 8 août, donc daté d'hier, si on peut voir peut-être la déclaration du pape qui se dit préoccupé par le populisme, préoccupé par ce qu'on entend des discours qui ressemblent, dit le pape, à ceux d'Hitler en 1934. C'est adressé à Salvini, ça ?
Oui, c'est adressé indirectement. Bien sûr, le pape ne peut pas intervenir directement dans la vie politique intérieure italienne, mais on voit bien de qui il parle lorsqu'il fait ce type de déclaration. Mais il n'est pas certain que Salvini soit mécontent de ce type de déclaration par le côté excessif. Salvini est de droite, d'extrême droite, il a un discours anti-immigré, il a un discours anti-islam, on ne peut pas le comparer à Hitler, il n'a pas écrit Mein Kampf, etc. Donc on peut critiquer son programme, mais ce type de comparaison, Salvini va pouvoir dire, regardez, tous ceux qui critiquent...
Quand le pape critique un courant politique, en Italie, quand même un pays catholique, comme la France...
Oui, mais l'Église a quand même moins d'importance en Italie qu'elle n'en a eu dans la vie politique.
Avoir le pape à dos.
Non, je pense que... ceux qui écoutent le pape n'ont pas voté Salvini déjà. Donc, de toute façon, ceux pour qui le pape a une influence n'ont pas voté Salvini, ils ont voté ailleurs. Et là, ils risquent plutôt, au contraire, de dire, regardez, tous ceux qui sont pour le conservatisme sont contre moi et les critiques qui me sont adressées sont excessives. Donc, ça prouve bien que j'ai raison. Et il pourra faire un peu comme Trump, qui bénéficie un peu des attaques qui sont menées contre lui pour dire « Regardez, moi je suis le vrai peuple et les élites, y compris quand même le symbole des élites qui est le pape, sont contre moi. »
Donc si le pape... – Vous diriez que c'est un Trump italien ?–
Il a plus d'expérience politique que Trump,
c'est ça. Dans le discours, les ennemis sont les autres. Enfin, il y a des similitudes et des différences. Les similitudes, c'est bien sûr le rejet de l'étranger, le fait de dire « je m'adresse directement au peuple », la communication au-delà des médias par la communication directe. Mais en même temps, Salvini est un produit du système, alors que Trump s'est bâti contre le système. Mais en même temps, Salvini est en train de complètement démolir les fondements de la République italienne avec le bipartisme qu'il y avait entre les démocrates chrétiens et le Parti communiste, puis le Parti démocrate et Berlusconi. C'en est tout à fait fini. Et là, il est en train de devenir la référence globale, le pivot autour duquel la vie politique italienne va se créer, alors qu'il faisait, il y a une dizaine d'années, une dizaine de pourcents des voix. Quoi.
Vous en parlez comme s'il était tout à fait évident qu'il sera le prochain président du Conseil.
C'est ce qu'en Italie, tout le monde le dit depuis longtemps. C'est évident qu'il est le futur Berlusconi. Mais de manière, on savait que Sarkozy serait élu en 2006, on savait que Berlusconi serait élu avant qu'il soit élu. C'est des choses qui tombent sous le sens quand on voit l'adhésion des Italiens pour Salvini.
L'élection, hein, c'est toujours compliqué, non ?
Oui, je pense. C'est la proportionnelle, donc il y a quand même... Il a un tel socle. Ce n'est pas une élection présidentielle. On vote pour des parlementaires. Il a des troupes. Il a des troupes qui, maintenant, commencent à être aguerries. Et donc, là, les sondages ne peuvent pas... Il domine tellement. Il a une telle avance sur l'ensemble des autres formations politiques. Il n'est pas à touche-touche, à 2% près, avec celui qui est numéro 2. Il a presque le double du deuxième par rapport au deuxième parti. Donc, on ne voit pas... Il faudrait vraiment... Et on sait très bien que les scandales, finalement, ont assez peu de répercussions. Donc, même s'il y avait un gros scandale, je ne vois pas en quoi il pourrait se dégonfler par rapport au socle extrêmement haut qui est le sien.
Il n'y a plus personne autour de lui dans la vie politique italienne. Il n'y a pas une personnalité qui pourrait se lever et qui l'emmènerait.
Pour le moment, on ne la voit pas. Non, je pense que la prochaine élection, qu'elle soit...
Matteo Renzi, qui a été, par exemple, un de ses prédécesseurs, a disparu.
Mais regardez Matteo Renzi. En 2014, aux élections européennes, il fait 40%. Et puis aujourd'hui, il est balayé et son parti remonte un tout petit peu, le parti de gauche remonte un tout petit peu, mais il est quand même faible. En Italie, vous savez, les choses évoluent très vite. Regardez aussi Di Maio, il faisait 37% ou 34% il y a un an et deux mois, et aujourd'hui, il est complètement effondré. Ça va très vite. Bon, les prochaines élections, je crois qu'il a peu de chances de les perdre, mais il peut, au pouvoir, si vous voulez, perdre très vite... les acquis qu'il a pu avoir quand il était
là-dessus, on va pas aller trop vite en besogne, hein, parce que l'élection reste encore à convoquer, donc n'allons pas trop vite, mais regardons quand même ce qui a fait Salvini dans l'année qui vient de s'écouler. Il y a sa personnalité, vous l'avez dit, puis il y a son poste, il y a son costume, celui de ministre de l'Intérieur, et il y a un dossier, c'est celui des migrants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas chômé, fermeture de centres d'accueil, intransigeance face aux navires humanitaires auxquels il a interdit d'accoster, et tant pis, ou peut-être de son point de vue, tant mieux si cette politique heurte ses partenaires européens, au premier rang desquels d'ailleurs Emmanuel Macron. Mathieu Lignot avec Christophe Roquet.
...160 voix pour, 57 contre. Le Sénat italien a adopté mercredi un nouveau décret contre les bateaux d'aide aux migrants. Une victoire pour le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Devant le Sénat, manifestation de protestation. Pas de quoi émouvoir le populaire et populiste Matteo Salvini. Le ministre italien du parti d'extrême droite, La Ligue, assume.
S'ils entrent dans les eaux territoriales italiennes, nous leur confisquerons leurs bateaux.
Bateaux saisis et jusqu'à 1 million d'euros d'amende pour les ONG qui aident les migrants en Méditerranée. Salvini a fait du combat contre l'immigration son cheval de bataille. À coup de phrase choc.
L'immigration est une nouvelle façon d'obtenir des esclaves, à utiliser à la place des jeunes Italiens. Ils ne servent à rien d'autre.
Et depuis son arrivée au gouvernement il y a plus d'un an, il multiplie les critiques contre la politique migratoire de l'Europe. Un nationalisme et un populisme dénoncés par le président Emmanuel Macron.
On aime aussi son Europe. Vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. Dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître. Et des amis voisins. Ils disent le pire. Et nous nous y habituons.
Échange d'amabilité régulière entre les deux hommes.
Nous sommes peut-être des lépreux populistes, mais je tire les leçons de ceux qui ouvrent leurs propres ports. Accueillez des milliers de migrants, et ensuite on pourra parler.
Des menaces, Matteo Salvini est donc passé aux actes.
Je vous informe que vous n'êtes pas autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes. Le non-respect de cet ordre pourrait entraîner des sanctions pénales. Bien reçu ?
Interdiction pour ce bateau d'accoster sur les côtes italiennes. 41 migrants épuisés à bord, le capitaine tente quand même.
Bien reçu, mais nous sommes dans des conditions d'urgence qui nous obligent à nous rendre au port le plus proche.
Mais une fois à quai, débarquement impossible. En juin dernier, c'est la capitaine de l'emblématique bateau Sea-Watch qui est arrêtée. Carola Racketeux est accusée d'avoir forcé le passage pour débarquer des migrants. En 2 ans, le nombre d'arrivées en Italie aurait chuté de 80%. Mais il faut trouver des solutions pour ces bateaux livrés à eux-mêmes. Fin juillet, réunion de ministres européens à Paris. Sans Matteo Salvini, il boude la rencontre. Il choisit Facebook pour s'en prendre à Emmanuel Macron, encore une fois.
Macron, ce nouveau Napoléon qui convoque, invite, menace, domine, insulte. Mon ami, l'Italie ne sera jamais un camp de réfugiés. Macron veut des ports ouverts. Il y a Marseille et ceux de Corse.
À la tua salute, Emmanuel.
Une situation loin d'être réglée. En ce moment même, ce bateau, l'Open Arms, navigue toujours dans les eaux internationales. Il recherche un port d'accueil pour les 121 migrants à son bord.
Je rebondis sur cette image. À ta santé, Manuel. Pardon, s'il devient président du Conseil, ça ne va pas être facile, les sommets européens.
Clairement, parce qu'il y a eu une crise entre la France et l'Italie. La France a rappelé son ambassadeur pour protester. Il y a quand même eu un arrangement avec le président du Conseil et notre ambassadeur, Christian Masset, a pu repartir à Rome. Si Salvini avait été président du Conseil, je pense que la crise aurait été beaucoup plus dure et qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Parce qu'en plus, là, Salvini joue sur du velours. Il sait que critiquer un dirigeant français qui donne le sentiment, il joue sur le fait « les Français nous méprisent, moi je défends les Italiens ». Et donc les Italiens ont toujours souffert d'être considérés comme des Européens de seconde zone. On reprochait depuis longtemps, c'était déjà le cas sous Mitterrand, qu'on s'occupe trop de l'Allemagne et qu'on méprise l'Italie. On est cousins, mais il y a un peu ce sentiment d'être tenu pour quotité négligeable par la France. Et puis, disons aussi quand même très franchement, quand il y a eu cet afflux de réfugiés et de migrants en Italie, la France a fermé sa porte. Et donc, ça a créé un très fort ressentiment en Italie en disant « Vous nous donnez des leçons de morale, mais enfin, vous ne faites pas grand-chose. » Donc là, Salvini joue sur l'anti-Macron. Plus il critique la France et surtout son actuel président, plus il augmente sa popularité auprès de ses électeurs, notamment sur le dossier des réfugiés et des migrants.
Pour aller dans ce sens, on se souvient en matière économique, par exemple, qu'il avait été question qu'un groupe italien rachète les chantiers de l'Atlantique et la France avait mis son veto, alors que les grandes entreprises françaises ont fait leur marché depuis très longtemps en Italie, en rachetant des fleurons par Malade, par exemple, qui a été racheté. Et donc, il y a bien ce sentiment d'être effectivement méprisé, pas considéré à sa juste valeur par les Français. Et donc Emmanuel Macron incarne aussi peut-être cette forme d'arrogance française sur laquelle Matteo Salvini peut s'appuyer pour jouer la base, le peuple italien, en disant notre pays ne sera jamais un camp de migrants qui arrangerait tous les autres puissances européennes. Et donc il joue sur le réflexe patriotique et sur la souveraineté populaire et nationale italienne, et il le fait avec le talent qu'on lui connaît.
Question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice, en l'occurrence c'est d'André qui nous regarde depuis la Moselle. Que sont devenus les migrants arrivés à Lampedusa au cours des années? On le sait.
Sur 480 000 migrants qui sont arrivés depuis 2015 en Italie,
500 000,
25% sont partis dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres, Salvini joue sur un effet qui n'existe plus. 180 000 migrants arrivent en Italie en 2016. 29 000 l'an dernier, 2018, et depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin, 2700. Donc en fait, pour des raisons qui ne tiennent pas à sa politique d'ailleurs, parce que c'était déjà le cas l'an dernier, qui tiennent au fait qu'ils sont répartis autrement, qu'on a signé des accords avec la Turquie, qu'il y a moins de départs, il y a quand même un flot de migrants. Lui fait des choses spectaculaires pour s'attribuer le mérite en fermant les ports. Aujourd'hui, il y a plus de réfugiés de migrants qui passent par la Grèce et par l'Espagne que par l'Italie.
François Delabarre.
Non, la politique anti-migrant de Salvini, en fait, elle a été mise en place par le gouvernement socialiste de Paolo Gentiloni et son ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, qui est un ancien communiste. Alors, eux, on l'ont fait discrètement, c'est la différence qu'ils ont avec, avec Salvini, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont négocié directement en Libye avec les chefs de milice des régions de Zouara et Zaouia, qui sont les deux ports d'où partent les migrants qui partent de Libye. Et en fait, ils ont imité ce qu'avait fait Berlusconi avec Kadhafi dans 2009-2010. Il avait fait un grand pacte. Et du coup, cette politique avait permis d'éradiquer complètement les départs, puisque Kadhafi empêchait les départs. Il en avait les moyens. Et aujourd'hui, la Libye n'est plus ce qu'elle était. Donc, Marco Minniti a trouvé un dialogue, a ouvert un dialogue avec ses chefs de milice. Et ils ont ce même pouvoir à un niveau local qu'avait Kadhafi. Et c'est ça qui a empêché les départs. Et donc, les chiffres que vous donnez, qui sont très, très éloquents, montrent qu'en fait, la chute des départs, elle date d'avant Salvini. Et Salvini, il arrive à un moment où déjà, il n'y a plus de départs.
Mais lui, il le revendique.
Mais il fait de la com. Voilà, c'est la com qui change. Et c'est là où il est comme Trump. Là-dessus, il est comme Trump, c'est-à-dire qu'il construit un mur. Il le fait de manière sur Twitter. Il dit, je vais construire un mur. Alors, bon, Trump, c'est le mur avec le Mexique. Et lui, en fermant les ports, ben, clairement, il construit un mur sur la Méditerranée. Et c'est là où...
Incarcérer quand même des...
Oui,
mais... ministres de l'Intérieur, pas ministres de la Justice. Mais on incarcère aujourd'hui en Italie les capitaines de bateaux qui déposent des migrants sur les côtes.
Oui, mais avant, on les cherchait aussi. Il y avait la même loi avant. C'était incitation à la clandestinité.
Donc simplement, c'est dit.
Mais c'est dit, voilà. Avant, c'était tu, parce qu'ils n'avaient pas forcément... Ils n'étaient pas très fiers de ce qu'ils faisaient, mais ils le faisaient. Maintenant, il est fier.
Est-ce que cette manière de revendiquer une politique migratoire dure, une fermeture des frontières, en tout cas maritimes, lui vaut des voix hors de son camp naturel?
A priori, oui. Si les socialistes le faisaient, mais même encore aujourd'hui, Marco Minniti a donné une interview et par rapport à Salvini, il ne se place pas, il ne dit pas il faut accueillir les migrants, il dit il faut gérer, il faut une immigration contrôlée, il faut... Donc étant lui-même de gauche, il a un discours qui est quand même un discours de droite par rapport à ce que nous on vit ici, par exemple. Donc le débat politique, il est quand même très... Il est sur la droite en Italie aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui en France. Et même le mouvement 5 étoiles, c'est pas opposé au décret anti-migrants, il l'a voté, donc on peut dire que dans le paysage
politique... Il dit quoi d'ailleurs ce décret anti-migrants,
le slogan c'est la pacchia è finita, ça veut dire en gros la fête est finie, on ne donne plus d'argent pour les migrants qui viennent chez nous, quoi. En gros, donc il réduit les aides sociaux, il rend la vie difficile aux migrants économiques. Alors là où il veut montrer qu'il est quand même quelqu'un de tolérant, c'est qu'il va à l'aéroport pour accueillir les migrants qui viennent de pays en guerre. Il dit nous on veut venir, on n'est pas raciste, on accueille les Africains s'ils ont des problèmes dans leur pays, qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays pour des raisons de politique. Mais les migrants économiques, on n'en veut pas. C'est son discours. Mais ça, l'ensemble du paysage politique italien, là-dessus, il n'y a pas une opposition farouche, quoi.
Il y a d'autres dossiers que l'immigration dans son territoire de la sécurité qui lui ont valu des voix ?
Sans doute la lutte contre la mafia. Il s'est mis en scène en maillot de bain, en train de plonger dans une piscine d'une villa qui avait été saisie à des dignitaires, des chefs de la mafia. Et donc, c'est assez populaire. Mais un peu comme on disait tout à l'heure sur Nicolas Sarkozy, quand il avait été ministre de l'Intérieur, c'est une bonne rampe de lancement pour, encore une fois, montrer un volontarisme politique, en disant, voilà, on s'attaque, on prend les problèmes à bras-le-corps. Alors après, est-ce que sur le long terme, vous avez des résultats tangibles? C'est une autre question, mais ça fait des belles images et ça montre qu'on est déterminé à agir. Et c'est toujours la même ligne. Il va l'utiliser aussi si jamais le gouvernement, le président de la République traîne en longueur pour convoquer des élections, en disant la situation de l'Italie est telle qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre. Et donc il faut des gens qui agissent, qui agissent fort et vite. Mmh. Et donc c'est ce que moi je fais.
Oui, la situation économique en Italie n'est pas très bonne. L'Italie n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise de 2008. Il y a un taux de chômage qui est supérieur à 10%, etc. Alors quand vous venez et vous dites, comme on l'a entendu tout à l'heure, ces émigrés prennent votre travail, effectivement, ça marche. C'est populaire, si vous voulez. C'est vrai que ça lui fait gagner des voix. Alors ça lui fait gagner des voix au sud, parce que les gens sont confrontés directement à cette immigration, et puis ça fait des voix aussi au nord, où on voit sous toute cette masse d'émigrés, on se sent menacé. Alors c'est vrai que c'est démagogique aussi, et ça permet de lutter aussi contre, de provoquer, je dirais plutôt, un sentiment anti-européen qui n'était pas un sentiment majoritaire en Italie. L'Italie était un pays très pro-européen pendant des décennies.
Qui est anti-européen aujourd'hui ?
Bah, oui, parce que vous tenez ce langage. langage. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens, d'ailleurs. C'est pas un faux langage, hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose pour les aider. En particulier, nous, Français. Les Allemands, peut-être, c'est différent. Mais quand on tient ce langage, regardez ce qu'ont fait les Européens. Ils nous laissent tomber. C'est lamentable, cette Europe. Comme le dit Salvini, évidemment, ça marche.
Mais même les opposants Salvini reprochent à l'Union européenne et à la France en fait, d'avoir permis son ascension politique en disant, en fermant les frontières, et le fermeture des frontières, c'était non seulement sous Macron, sous Hollande et sous Sarkozy. Oui. Rappelez-vous, à Vintimille, Claude Guéant qui vient pour empêcher des Tunisiens. Donc, même ceux qui s'opposent à Salvini reprochent un peu au reste de l'Union européenne d'être responsable de sa montée pour avoir laissé l'Italie être au premier plan avec Lampedusa, avec géographiquement en disant, vous demandez la solidarité européenne, mais nous, quand on a eu ce problème de flux massifs de migrants et de réfugiés, on a dû se débrouiller tout seul à cause des accords de Dublin qui fait qu'un réfugié ou un migrant qui arrive, un réfugié qui vient sur le sol d'un pays doit être traité sur son dossier et sur le sol du pays auquel il a mis le premier pas. Sauf que l'Italie étant géographiquement là, c'est celle qu'on a pris le plus. Et donc, il aurait fallu réviser les accords de Dublin beaucoup plus rapidement. Et chacun, vraiment, s'est drapé dans une sorte d'indifférence assez lâche. On a laissé les Italiens se débrouiller. Et là, on paye le prix politique d'avoir laissé les Italiens seuls gérer ce problème.
Est-ce qu'on sait ce qu'il pense des autres sujets qui ne sont pas dans son portefeuille? Est-ce qu'il s'exprime sur des sujets qui ne relèvent pas, par exemple, du ministère de l'Intérieur, Salvini?
Là, il a parlé de son premier discours de campagne, puisque là, il était en campagne à Pescara, je crois, il a parlé de baisser les impôts. Il est plutôt libéral, et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle à son électorat, il renoue avec son électorat d'origine, qui est la Ligue du Nord, anciennement appelée Ligue du Nord, qui était donc cet électorat prospère et qui estime qu'il paye trop d'impôts, et donc il fait, voilà, il va commencer à distribuer des jetons à son électorat pour
son
revenir.
Socle, c'est les PME. C'est les PME qui sont très nombreuses et très puissantes, qui font la force économique de l'Italie. Sauf que, comme Alain Chabon l'a dit, c'est que quand il sera au pouvoir, l'Italie est déjà un énorme déficit. Baisser les impôts, par quelle recette? Là, on peut penser qu'il est en train de manger son pain blanc, mais que le pire ennemi de Salvini, c'est la réalité économique de l'Italie.
Oui, il fait, par exemple, c'est aussi démagogique. Il a baissé l'âge de la retraite. C'est quand même pas dans l'air du temps, ça. Il a baissé l'âge de la retraite, il veut instaurer une flat tax de 10 ou 15%. Voilà,
tout sur ça, c'est des... Une flat tax sur, c'est-à-dire une...
Un impôt
plat.
Oui, je crois qu'il y aurait deux taux. Il y aurait un taux à 10 ou un taux à 20%, je ne sais plus les
pour
chiffres.
Pour les impôts, exact. Pour l'impôt sur
oui,
le revenu.
Oui, absolument. Oui, oui. Et baisser l'âge de la retraite, c'est quand même très significatif d'une façon de penser.
Aux yeux de l'Europe, la grande inquiétude, c'est la dette italienne. Le pays a été plusieurs fois rappelé à l'ordre par Bruxelles. Des discussions, d'ailleurs, sont en cours. Bruxelles qui craint une crise pire que celle de la Grèce. Voilà ce qu'on entend dans les couloirs du Parlement européen et de la Commission de Bruxelles. Mais de cela non plus, Matteo Salvini, vous allez l'entendre, ne veut pas entendre parler. Mélanie Nunes avec Dominique Lemarchand.
Quelques jours après les élections européennes, dans une ville pauvre, au sud de l'Italie, Matteo Salvini, fort de son score de 34%, lance un message, une énième provocation à la Commission européenne.
J'irai à Bruxelles la semaine prochaine et je vais leur dire, laissez-nous faire ce que demandent les Italiens, moins d'impôts et plus d'emplois. Et si on nous dit non, nous verrons bien qui a la tête la plus dure.
Provoquer Bruxelles et continuer à surfer sur un courant qui estime que l'Europe est responsable de la crise italienne. Mais l'Union européenne tape du poing sur la table et se dit prête à ouvrir la voie à des sanctions financières.
Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, nous avons conclu que les efforts d'abaissement de la dette ne sont actuellement pas respectés et qu'une procédure de déficit excessif est justifiée pour l'Italie. Pour autant,
la mia porta rimane aperta.
Et pour ceux qui ne comprennent pas mon italien, je les pardonne.
Ma porte est ouverte. Nous pouvons toujours échanger et écouter.
Une procédure pour déficit excessif, c'est-à-dire en théorie, des sanctions pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros pour l'Italie. La dette italienne atteint aujourd'hui des sommets, bien plus que celle de la France ou de l'Allemagne, 132% en 2018, c'est-à-dire 2 300 milliards d'euros, 12 fois plus que la dette grecque pendant la crise, alors que la croissance italienne était proche de zéro au premier trimestre 2019. Une situation explosive. De passage à Paris pour une conférence sur la crise italienne, Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, lance un avertissement.
La situation est préoccupante de ce point de vue. J'espère que le gouvernement italien trouve une façon d'éviter la procédure. Parce que je m'en connais, c'était sous mon gouvernement qu'on était sorti la dernière fois d'une procédure d'infraction en 2013. Et je sais combien c'est compliqué quand on est dedans. Donc ma suggestion, avec beaucoup, beaucoup de chaleur et beaucoup d'anxiété aussi, est celle de dire ne faites pas ça.
Mais rien ne semble arrêter le gouvernement. Pour Matteo Salvini, ignorer les injonctions de Bruxelles, c'est même une stratégie. La coalition au pouvoir mène une politique très coûteuse. Allègement des charges et des impôts sur les entreprises en difficulté, départ à la retraite à 62 au lieu de 67 ans, ou encore le versement d'un revenu citoyen pendant 2 ans à toute personne sans emploi. 100 milliards d'euros pour financer ces réformes qui creusent un peu plus le déficit.
Moi, j'ai l'impression que c'est surtout de la politique politicienne, une tactique de Matteo Salvini qui est redoutable. Il est très, très fort, Matteo Salvini, en communication politique. C'est surtout, je pense, une façon pour Salvini de s'imposer dans le rapport de force avec Bruxelles sur la procédure d'infraction qui a été annoncée.
Si l'Europe s'inquiète, c'est que les conséquences d'une crise italienne ne s'arrêteraient pas aux frontières du pays. Si demain l'Italie est incapable de rembourser sa dette, c'est toute la zone euro qui risque d'être impactée.
Ça aura des conséquences assez tragiques pour le reste de l'Europe, en ce sens que d'un côté, il y a beaucoup d'institutions financières d'autres pays qui détiennent de la dette publique italienne, en particulier des assurances françaises, donc il y aura une perte pour les épargnants français. Et d'autre part, il y a un risque de contagion, c'est-à-dire que les marchés pourront se dire l'Italie est fragile, donc l'euro est fragile, et donc ça pourrait introduire des hausses de taux d'intérêt pour des pays comme l'Espagne ou même la France. Il faut être clair, l'Italie est l'enfant malade de la zone euro.
L'enfant malade de l'Europe et ses 10% de taux de chômage, 30 pour les 15-25 ans, bien au-dessus de la moyenne européenne.
D'abord, frappé d'entendre l'ancien Premier ministre italien parler aussi bien français, Enrico Letta. Il parle français, monsieur Salvini ?
Non, Salvini. Il parle, mais il a beaucoup, il est resté en Italie pendant quasiment toute sa carrière, donc il n'a pas une expérience internationale très, très importante.
Il n'a pas non plus un bagage universitaire extraordinaire.
Non, il a arrêté très tôt ses études pour faire de la politique. Donc,
Question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Que peut faire l'Union européenne pour éviter que la dette italienne ne l'atteigne de plein fouet ?
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du manque de solidarité européenne au moment de la crise des migrants, mais quelques années avant, au moment de la crise de l'euro, la Grèce avait été touchée de plein fouet, mais d'autres économies du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Italie, avaient payé très cher cette crise, avec des coups de rabot dans le modèle de protection sociale, etc. etc. Donc il y a aussi cet arrière-fond-là qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est perçu comme des injonctions venant du nord de l'Europe, donc soit de Bruxelles, soit de Berlin, soit de Paris, passe très mal dans la population italienne. Il y a quelques mois encore, Salvini a joué sur du velours quand un Français, M. Moscovici, qui représente l'Europe, faisait des remontrances sur le budget italien, alors même qu'il y avait une mensuétude plus importante avec le budget français, dont le déficit était plus important. Donc c'est très compliqué dans ce contexte politique pour Bruxelles d'interférer en la matière.
Mais pardon, si l'Italie cale.
Et alors l'autre difficulté, comme on disait au moment de la crise boursière sur les grandes banques américaines, l'Italie aujourd'hui est trop grosse pour tomber. C'est-à-dire qu'on a pu juguler la crise grecque, mais la crise grecque, la Grèce pesait une toute petite partie du PIB européen. L'Italie aujourd'hui, surtout en cas de Brexit avéré, représentera plus d'un quart de l'économie de la zone euro. Donc on ne peut pas se permettre le luxe de faire tomber l'Italie, donc il faut négocier.
Mais en même temps, l'économie italienne va très mal parce que le PIB aujourd'hui, il n'y a pas eu de croissance depuis 2000. Donc il y a une paupérisation des Italiens.
C'est un pays à l'arrêt,
voilà,
économiquement.
Il y a une paupérisation des Italiens, la classe moyenne qui était quand même nombreuse et plutôt, enfin, prospère en tous les cas à l'aise, a subi le contre-coup. L'Italie a eu le choc de 2008, comme la plupart des pays, et le choc de 2011 parce que des mesures d'austérité ont été prises pour satisfaire les demandes européennes. Donc l'Europe, effectivement, n'est pas extrêmement populaire. Et on a ce paradoxe que l'Italie, qui est un pays fondateur de la CE, l'ancêtre de l'Union européenne, qui est vraiment du traité de Rome en 57, qui est un pays qui a toujours été pro-européen parce que l'Europe, c'était sortir du passé, la modernité, etc. Maintenant, c'est effectivement devenu un pays où les sentiments sont anti-européens parce que l'Europe est vue comme, finalement, porteur d'austérité, porteur de paupérisation et non pas porteur de prospérité, comme c'était le cas auparavant.
Mais est-ce qu'il faut entendre de ce que vous dites que finalement nous sommes un peu otages de l'Italie, je parle de l'Europe, et qu'il faudra renflouer s'il y a un problème et que finalement, M. Salvini peut faire un peu ce qu'il veut.
Oui, il a pas l'intention de faire ce qu'il veut parce qu'il a conscience que la marge de manœuvre...
Voilà, c'est important. Donc il a une politique économique en tête.
Oui, disons qu'il a un discours qui n'est pas... En fait, le discours, et quand on écoute, si on veut le prendre au premier degré, on se trompe. Les Italiens le savent. Donc, quand il dit qu'il veut sortir de l'euro, enfin, je ne sais pas s'il l'a dit d'ailleurs, mais en gros, la crainte de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, c'est que ça n'a aucun sens, parce que déjà, il perdrait tout son électorat, et puis c'est ça, les conséquences économiques seraient désastreuses pour l'Italie. Donc, il ne prendra pas cette décision. Il sait qu'il ne peut pas prendre cette décision.
On disait des Anglais. Hein.
On le disait. Oui, mais lui, il ne va pas convoquer un référendum.
Les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Hein.
C'est juste, mais je parlais de la sortie de l'Europe.
Oui, non, et bon, les Anglais, Cameron a convoqué un référendum. Lui n'a pas convoqué un référendum, il n'en a pas l'intention. Le dernier qui a convoqué un référendum en Italie, c'est Matteo Renzi, qui voulait faire une grande réforme, et ça lui a coûté sa carrière politique. Et pourtant, en plus, la réforme était plutôt intelligente, puisqu'il voulait rectifier un grand problème en Italie, qui est le bicaméralisme parfait, c'est-à-dire que l'Assemblée et le Sénat ont le même pouvoir. Et donc, si vous voulez faire passer une loi, il faut absolument que l'Assemblée le ratifie, et le Sénat aussi. Et c'est Berlusconi qui me l'a dit. Il expliquait pourquoi il n'arrivait pas à gouverner ce pays. Donc
parce que les deux chambres s'annulent.
Les deux chambres s'annulent. Et en plus, ce n'est pas le même loi électorale pour l'une et pour l'autre. Mais c'était la bonne réforme, mais qui n'était pas vendue de la bonne manière. Il a convoqué un référendum. Et finalement, les Italiens étaient en rébellion contre la politique et contre leur classe politique. Ils ont voté contre. Et je ne pense pas que Salvini... Je pense qu'il a l'intelligence quand même de ne pas convoquer de référendum pour ça. Et il n'a pas l'intention de sortir de la zone euro.
Oui, je pense que dans la sévérité, entre guillemets, de l'Union européenne à l'égard de l'Italie, il y a surtout le fait qu'on avait peur de leur programme. Quand ils sont arrivés au pouvoir il y a un an, on avait peur qu'ils mettent en place ce revenu minimum, cette baisse des impôts, la baisse de l'âge de la retraite et tout ça. On s'est dit, mon Dieu, ils ont déjà 130% de dette. S'ils mettent en place leur programme, ça va être la catastrophe. Donc il y a eu une sévérité pour reculer sur le programme. Et c'est ça qu'il a fait. Salvini. Alors, il parle beaucoup, c'est très démagogique, l'Europe nous contraint, mais au fond, on fait plus ou moins quand même ce que demande Bruxelles.
Ouais. Les mesures les plus coûteuses du programme venaient du mouvement 5 étoiles. Donc là, en l'occurrence...
Si on s'en débarrasse...
Pour Bruxelles, le mouvement 5 étoiles est beaucoup plus dangereux que Matteo Salvini.
Avec un Matteo Salvini qui deviendrait peut-être président du Conseil en Italie, ça change la donne en Europe, ça change le leadership.
Oui, d'une part, parce que ça
pense à Emmanuel Macron qui clairement.
Ça sera quand même la première fois que quelqu'un qui vient de la droite dure, pour ne pas dire l'extrême droite, prendra la tête d'un gouvernement d'un pays fondateur de l'Union européenne et des grands pays. Donc ça, même s'il est policé, mais ça sera quand même un choc. Et puis effectivement, pour ceux qui veulent une relance de l'Europe, pour Macron, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que finalement, une partie du programme de Salvini, c'est taper sur Macron et taper sur la France, et puis taper sur la construction européenne telle que les Français et les Allemands la considèrent. Donc effectivement, la France a toujours eu besoin d'un partenaire italien pour avancer. À chaque fois qu'il y avait un blocage, si on avait les Italiens avec nous, c'était quand même important. Là, on a récupéré l'Espagne depuis que Rajoy n'est plus au pouvoir, mais on Lorsque Hollande est venu, a été élu, il s'est appuyé sur l'Italie pour faire bouger un peu l'Allemagne. Là, bien sûr, on ne pourra pas le faire. Donc l'Italie va nous manquer, va manquer à la France et va manquer aussi à l'Union européenne. Donc effectivement, et puis il y a, enfin, il est très paradoxal parce qu'il est à la fois très pro-atlantiste, très pro-Trump et en même temps très pro-Poutine. Donc je veux dire, pour ceux qui veulent une Europe puissance cohérente, c'est pas évident.
Qui sont ses alliés en Europe ?
Les pays comme la Hongrie, la Pologne, enfin la Pologne d'une certaine manière, enfin tous les partis populistes, tous les partis d'extrême droite. Alors si vous voulez, c'est pas la Hongrie, l'Italie, c'est quand même beaucoup plus important. Non seulement c'est un pays fondateur, mais c'est une sérieuse économie tout de même et un partenaire de premier plan au niveau industriel. Il y a 1000 croisements entre, par exemple, les industries françaises et italiennes.
Donc, dans l'automobile, même... où on continue à discuter une alliance entre le géant italien
oui, je sais pas
et,
si on continue
et un géant
à
français,
discuter,
paraît-il.
Un peu de mais enfin, ouais. Mais oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué depuis le début de cette émission, c'est qu'il a quand même une casserole. Ce qu'on appelle la Moscow-Tangentopoli, ou je ne sais plus comment on appelle ça en Italie.
Tangentopoli,
oui. Il y a un scandale russe. Voilà. Il y a de l'argent russe qui serait arrivé un peu dans les caisses de la Ligue. Ça a été sorti par la presse italienne avec des preuves à l'appui et des documents. Et pour le moment, on n'en parle pas trop parce que Di Maio voulait justement pas trop fâcher son partenaire. Mais maintenant que ça n'est plus son partenaire, il va peut-être se déchaîner. Donc
c'est de l'argent russe qui serait arrivé pour financer la campagne de M. Salvini.
Un de ses responsables est venu 14 fois en Russie au cours de l'année dernière, et ça a été effacé. Enfin, il s'est rendu, c'était pas officiel. Alors, soit les services l'ont fait passer par un canal spécial, et donc il y a des forts soupçons que ces 14 visites d'un haut responsable de sa formation politique en un an en Russie n'étaient pas là uniquement pour découvrir les splendeurs de Moscou.
Comme s'en explique, en fait, il répond. Il répond à ces critiques-là ou à ce scandale-là ?
C'est nouveau. En même temps, il n'est pas certain que ça soit suffisant comme vecteur pour affaiblir sa popularité.
Enfin, la personne qui a négocié avec les Russes, c'est un de ses meilleurs amis, tout de même. Donc, ça le lie directement à ce scandale. Ce qui est intéressant...
Donald Trump, c'était son gendre qui était soupçonné d'avoir des contacts avec la Russie. Il est toujours président des États-Unis.
Quand même, en Italie, les scandales ont fait tomber la République, quelque part, dans les années 90.
Vous n'avez pas l'air d'y croire.
Non, je ne sais pas. Non, je disais, juste en Autriche, il y a eu la même affaire, avec les partis qui s'approchent, de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite autrichien, qui était chercher aussi des subsides à Moscou, ça a été filmé. Et là, ça a provoqué une crise politique de première grandeur, une démission. Après, est-ce qu'en Italie, ça prendra...
C'est un enrichissement personnel, là aussi.
Voilà. Mais il y avait aussi l'idée de... Voilà.
Oui. Mais il y a une amitié russe qui est assumée. Le mouvement des jeunes de la Ligue a créé une alliance avec la Molodaya Gvardia, qui est donc les jeunes de Poutine. Et c'est la première fois qu'un parti européen crée une alliance avec un parti russe. Mais ce qui n'empêche pas d'être aussi pro-américain et de ne pas vouloir sortir de l'OTAN, donc il joue sur les deux tableaux. Ce que faisait Berlusconi aussi, qui était très fier d'avoir réconcilié Bush et Poutine.
On revient à vos questions. Les investisseurs étrangers ont-ils tendance à se détourner de l'Italie ?
Clairement, oui, parce que l'économie est à tonne. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le sort qui sera fait et il y a une crise économique qui n'est pas... l'Italie n'est pas le... Il faudrait une stabilité qui n'existe pas et il y a beaucoup trop d'incertitudes pour qu'on se précipite en Italie.
Jean-Marc Doré-Loire se demande si la dette de l'Italie pourrait sous peu entraîner la chute de Salvini.
Non, je ne pense pas, parce que honnêtement, il n'en est pas responsable. C'est une dette qui s'est accumulée au fil des années depuis la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas dire que Salvini, tu es responsable de ça. Si il adopte une politique qui aggrave d'une façon très spectaculaire l'endettement, oui, on pourra peut-être se retourner contre lui. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il aura la prudence de mettre de l'eau dans son vin.
Après le Brexit, va-t-on s'acheminer vers un Italexit ?
Non, parce que ça serait catastrophique, pas pour l'Union européenne, mais pour l'Italie. Puis, disons que les Britanniques n'ont jamais été vraiment... Ils ont toujours été un peu dedans, un peu dehors. En Italie, même s'il y a de la rancœur contre l'Union européenne et contre Bruxelles, les Italiens savent très bien qu'une sortie de l'Union européenne aurait un coût catastrophique. Et puis on peut dire d'ailleurs que ce qui se passe sur le Brexit vient calmer les ardeurs de tous les exciteurs possibles. Et que quand on voit où en est le Royaume-Uni... plus personne n'a envie aujourd'hui de sortir de l'Union européenne, vu le coût que ça représente pour celui qui essaye sans y réussir à le faire.
Va-t-on assister au retour de Silvio Berlusconi ?
En coulisses, oui. Oui, parce qu'il est derrière, il s'amuse, là, Berlusconi. Parce que si
quand vous dites qu'il s'amuse, parce que vous l'avez vu récemment
Non, j'ai pas vu, je l'ai vu il y a quelques années. Mais de toute façon, oui, il s'amuse tout le temps. Il amuse beaucoup les gens autour de lui. Mais non, parce qu'il a quitté, quand il a quitté le pouvoir, c'était triste, en 2010, 2011. Après, il y a eu Mario Monti, donc il y a eu un régime d'austérité terrible. Les Italiens qui roulaient à 50 à l'heure, parce que l'essence coûtait tellement cher que vous pouviez avoir... C'était une époque difficile. Ensuite, il est revenu au pouvoir, et puis il n'a jamais réussi à vraiment reprendre. Et avec Salvini, il va pouvoir faire une coalition. Et à ce moment-là, il y aura une alliance, l'alliance naturelle qui pourrait se reformer entre la Ligue et le parti de Berlusconi. Et à ce moment-là, il sera en coulisses, il ne sera pas en première ligne, mais il sera derrière.
Vous ne le voyez pas revenir au gouvernement.
Non. Il sera derrière, mais il sera chez lui. Il va recevoir les ministres, il va faire et défaire.
Il a été laminé aux dernières élections. Élections européennes, je crois que Forza Italia a fait quelque chose comme 8%. Salvini, en fait, siphonne littéralement
c'est les 8% qui vont permettre à Salvini de faire une coalition et de prendre le pouvoir. Donc, il pèsera sur l'échiquier. Et c'était le rôle que tenait Umberto Bossi à son époque, puisque lui faisait 30% et Bossi faisait 8%. Donc, ils vont inverser les rapports, mais il y aura toujours un rapport entre les deux et ils auront le pouvoir.
Que devient Matteo Renzi
Je ne sais pas trop.
Des nouvelles,
il est plus du tout le patron du Parti démocrate. Et honnêtement, ce qu'il fait...
Il a écrit un livre.
J'en sais rien.
Que fait Matteo Renzi ? Il a écrit un livre. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer une disparition de la scène politique.
Il est jeune, c'est peut-être pas fini non plus, sa carrière n'est pas forcément finie. Il
n'est pas parti se faire élire dans une ville européenne, mais il est en difficulté.
Allusion à peine masquée à Manuel Valls. Que pensent les catholiques italiens de Salvini ? Font-ils leur les derniers propos du pape ?
Écoutez,
qui s'inquiète, je le redis,
de
propos tenus qu'il compare à ceux d'Hitler en 1934.
Oui, alors c'est un peu excessif, ça c'est vrai. Mais le poids de l'Église et du Vatican sur la politique italienne est sans comparaison avec le poids que peut avoir l'Église française, si vous voulez. Alors, ce qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont fait, ils ont intervenu dans la vie politique italienne pendant 30 ans, 40 ans, à travers la démocratie chrétienne, et ça s'est très mal terminé. Donc, ils ont perdu beaucoup de leur influence, mais il en reste pas mal. Alors, est-ce que le pape, en attaquant de front, comme ça, Salvini, peut faire basculer un électorat chrétien ? Ça me paraît quand même difficile aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est pas négligeable tout de même.
Comment Salvini gère-t-il ce grave problème de la mafia qui gangrène son pays ?
Il s'arrange.
C'est-à-dire ?
Bah, on l'a beaucoup.
Alors, quand on dit il s'arrange,
il fait comme Berlusconi. Il fait comme Berlusconi. Il y a des collusions qui ont été... Il a été suspecté de faire des signer des accords, enfin pas de signer, mais d'avoir des accords avec des représentants indirects de la mafia dans le sud de l'Italie, ce qui fait qu'il a aussi gagné autant de voix dans le sud de l'Italie. Parce que c'est pas la politique anti-migrant qu'il a gagné autant de voix. Il y a aussi une forme d'indulgence avec certains groupes.
Ce qui ne l'empêche pas de se faire photographier au bord de la piscine d'un mafieux qui l'a fait tomber.
Oui, bien sûr, mais ça c'est tout lui. Il n'a pas peur des paradoxes. Il fait la Ligue du Nord et il épouse une fille du sud de l'Italie. Bon, c'est pareil, il tend la main peut-être à une certaine mafia et de l'autre côté, il se fait photographier avec ceux qui luttent contre la mafia.
Chantal, qui nous regarde dans les Hauts-de-Seine et qui a l'oreille fine, Salvini a-t-il des liens avec la Russie, oui ou non ?
Ah oui, très fort, sûr. Oui. Poutine joue sur lui et c'est effectivement, enfin, Poutine est ravi de voir Salvini s'il arrivait au pouvoir. Et il y a des connexions très fortes entre Salvini, son parti, et la Russie et le parti de Poutine.
Oui, il avait un portrait de Poutine donc, l'autre jour à la télévision. Et c'est vrai que Poutine est une sorte de parrain, entre guillemets,
symbolique.
De tous ces partis d'extrême droite en Europe.
Ou financier.
Symbolique, pas en cash aussi.
C'est pas le seul. On parle très peu du Qatar, mais il a aussi un lien assez fort avec le Qatar. C'était le seul ministre invité au dîner d'État pour l'émir du Qatar à Rome. Il s'est déplacé là-bas et il a un discours qui est très... il défend l'image du Qatar. C'est un autre point commun qu'on peut avec Sarkozy à l'époque aussi. Mais disons que c'est...
Et d'autres
une, et d'autres, mais il y a peut-être un lien de même nature qu'avec avec les Russes.
Où en sont les relations Macron-Salvini? Ignorance mutuelle, hostilité farouche ou tentative pour renouer le dialogue?
Non, c'est hostilité farouche déclarée, parce que chacun, pour des questions de politique intérieure, oui, a intérêt à critiquer l'autre. Et puis aussi, autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que sur la Libye, on est également dans des camps opposés, oui, puisque les Italiens reprochent aux Français d'être un peu responsables, ils n'ont pas tout à fait tort, du chaos libyen, oui, et nous, on joue Haftar, et eux jouent le pouvoir légitime en place.
Haftar, c'est-à-dire le chef rebelle actuel.
Le chef rebelle, etc. Et donc on est sur deux camps opposés.
Le pouvoir légitime qui a une alliance avec les frères musulmans. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que Salvini qui joue avec les frères musulmans en Libye. Donc il n'est pas totalement xénophobe.
Voilà une histoire qu'on va continuer à écrire ensemble. On n'a pas fini d'en parler, c'est sûr. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'être venus nous éclairer. Ce C'est dans l'air est rediffusé ce soir à 22h40. Évidemment, comme toujours, vous pouvez le regarder en podcast. Et on se retrouve demain, car le samedi, c'est ouvert aussi. Belle soirée sur France 5.